VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. Au Kenya, au moins 15 morts et 30 blessés à l'université de Garissa dans l'est du pays, attaqués ce matin par des militants du groupe islamiste somalien Al-Shabaab. Les affrontements continuent entre les assaillants et les forces de sécurité kenyanes. Et un porte-parole d'Al-Shabaab a dit à l'agence Reuters que les militants gardent des chrétiens en otage après avoir libéré tous leurs captifs musulmans. L'attaque intervient en pleine campagne du président kenyan Uhuru Kenyatta pour relancer le tourisme dans son pays. Michel Joseph.
Le secteur du tourisme a été frappé de plein fouet par les attentats du groupe islamiste somalien Al-Shabaab, notamment le siège du centre commercial de Westgate à Nairobi, qui a fait 67 morts en 2013, ainsi que les attaques sanglantes près de la frontière kényane. Intervenant à une conférence de la diaspora kényane sur l'investissement, le président Kenyatta a dit que les Kenyans qui vivent à l'étranger devraient être les premiers diplomates de leur pays, en faisant du lobbying pour ses parcs, safaris et plages sur l'océan Indien. Concernant les communiqués invitant les voyageurs à faire attention au Kenya ou à éviter ce pays à cause des risques d'actes terroristes, le président Uhuru Kenyatta a dit ne pas avoir entendu d'avis de ce genre au sujet de Paris, qui a pourtant été récemment victime d'attaques terroristes. Pour le gouvernement de Nairobi, de telles mises en garde n'ont fait qu'enhardir les terroristes et ne reflètent pas ses succès dans la prévention de tels attentats.
Au Nigeria, le président élu Muhammadu Buhari promet de débarrasser le pays de la terreur du groupe islamiste Boko Haram. Monsieur Buhari a reçu hier un coup de téléphone de félicitations de son homologue américain Barack Obama. Ce dernier a également appelé le président sortant Goodluck Jonathan pour le féliciter de son fair play. La veille, le chef de l'exécutif américain avait téléphoné à son homologue de la RDC, Joseph Kabila, pour lui faire part de la nécessité d'organiser des élections crédibles et pacifiques dans son pays en conformité avec la constitution congolaise. Appel qui a suscité des réactions à Kinshasa. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire dans la capitale congolaise.
Le président américain a notamment souligné à son homologue congolais, je cite, l'importance de la tenue d'élections crédibles et pacifiques dans les délais qui respectent la Constitution et protègent les droits de tous les citoyens de la République démocratique du Congo. Fin de citation. Pour Martin Fayulu, député de l'opposition, il s'agit d'un appel qui tombe au bon moment.
C'est un appel logique parce que le président Obama, c'est un démocrate et s'est beaucoup investi pour que la démocratie s'installe en Afrique. Et nous trouvons aujourd'hui que cet appel est arrivé à point nommé.
À la majorité présidentielle, on accepte les recommandations du président Obama à condition qu'il s'agisse de conseils et non d'injonctions. Le député Gizanga est du parti Lumumbiste Unifié.
Si c'est à titre de conseil, nous on concède. Parce que le président lui-même ne veut pas des injonctions et il en parle toujours.
Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En RCA, première comparution hier du ministre du Tourisme, Romaric Vomitiadé, au tribunal de grande instance de Bangui. Le procureur a requis 5 ans de prison ferme et une amende de 500 000 francs CFA contre le membre du gouvernement en détention préventive depuis plusieurs semaines pour le viol d'une jeune fille mineure. Des précisions avec Anne Albertson.
Le réquisitoire du procureur est tombé au terme d'un procès qui a duré toute la journée. Au moins 6 témoins, dont un à charge, ont été appelés à la barre et le débat a été riche en contradictions. Romaric Vomitiadé est poursuivi pour attentat à la pudeur, consommé avec violence, acte de pédophilie et empêchement à l'émancipation de la jeune fille. Le ministre a plaidé non coupable et sa défense a parlé d'un pur montage pour nuire à sa carrière politique. 5 ans d'emprisonnement ferme et 500 000 francs CFA d'amende requis par le procureur n'ont pas satisfait l'avocat de la jeune fille qui, lui, réclame 20 millions d'amende. Le verdict est attendu le 8 avril prochain. Romaric Vomitiadé est accusé d'avoir abusé fin février d'une jeune fille de moins de 18 ans alors qu'il était à la tête d'une mission de consultation populaire à Yaloké, localité située à quelques 220 km au nord-ouest de Bangui.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Niger, le poivron est la principale production agricole de la région de Difa, qui a fait l'objet de plusieurs attaques du groupe islamiste nigérian Boko Haram. La milice djihadiste allait se servir chez les producteurs de cette denrée pour financer sa guérilla. D'où la décision des autorités nigériennes d'interdire le commerce du poivron dans la région. Les producteurs et vendeurs de cette denrée ne savent plus où donner de la tête. Au marché de Difa, Idriss Fall a interviewé Maloussa Barma, un vendeur de poivrons.
Tout le monde, les gens qui vendent les poivrons, ils ont un problème. Parce que c'est les poivrons seulement, ils vendent, ils achètent quelque chose à manger à la maison. Quoi. Maintenant, les poivrons, ils sont arrêtés. Les gens, ils sont dit ne peuvent pas vendre. C'est pour cela, tous les gens, ils ont un problème maintenant.
Comment est-ce que vous faites pour garder le poivron, par exemple, pour qu'il ne se gâte pas?
Maintenant, on dépose là-bas, au village. On a déposé là où on a acheté des poivrons, parce qu'on a dit, ne vient pas même à Difa. C'est pour cela, on a mis au plastique, on a déposé là-bas.
À peu près, vous avez perdu combien d'argent depuis?
Trop, beaucoup. Avant, on vendait le poivron à 8000 naira. Mais maintenant, ça devient à 5000 naira. C'est comme ça, on a perdu 3000 naira.
Maloussou Barma, un vendeur de poivrons au marché de Difa au Niger, rappelons que le Naira est la monnaie du Nigeria voisin, dont les ressortissants sont les principaux clients des vendeurs de poivrons dans la région. Au Yémen, poursuite des combats à Aden dans le sud entre les rebelles chiites, Houthis soutenus par l'Iran et les forces pro-gouvernementales appuyées par la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Des militants d'Al-Qaïda au Yémen en ont profité pour attaquer aujourd'hui une prison à Moukalla, également dans le sud, et libérer 300 détenus. Parmi eux, Khalid Bartafi, un des leaders du groupe terroriste. Des dizaines de réfugiés fuyant le Yémen en guerre n'ont pas trouvé meilleure destination que la Somalie. Depuis plus de deux décennies, c'était plutôt les Somaliens qui traversaient le golfe d'Aden vers le Yémen pour fuir le chaos dans leur pays. Bagassi Koura.
Selon le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés cité par l'AFP, les premiers groupes de Yéménites fuyant le conflit dans leur pays sont arrivés sur les côtes nord de la Somalie, dans la région du Somaliland, autoproclamée indépendante depuis 1991, et celle très largement autonome du Puntland. Ces deux régions ont été largement épargnées par la guerre civile qui a plongé le centre et le sud de la Somalie dans le chaos depuis la chute en 1991 de l'autocrate Siad Barre. Le HCR en Somalie a indiqué avoir récupéré samedi 32 réfugiés arrivés dans le port de Berbera dans le Somaliland. D'autres réfugiés ont été signalés arrivant sur les côtes de Djibouti, frontalier du Somaliland. Selon l'AFP, les agences humanitaires ont mis en garde contre la détérioration de la situation humanitaire au Yémen, pays qui héberge plus de 238 000 réfugiés somaliens, selon le HCR.
Pour parler sur le nucléaire iranien, les négociations continuent aujourd'hui à Lausanne en Suisse entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Javad Zarif. La porte-parole du département d'État, Mary Harf, dit qu'il y a des progrès dans les discussions, mais pas encore d'accord cadre entre les parties à la table de négociation. Dans les pourparlers en cours, les négociateurs parlent beaucoup de centrifugeuses, d'uranium enrichi et autres termes techniques. Que signifient tous ces mots? Quelques éléments de réponse avec Lionel Gaïma.
L'uranium se présente sous deux formes ou isotopes, l'U-235 et l'U-238 qui est un peu plus lourd. Barry Berkman du Stimson Center, un institut de recherche à Washington.
Only the U-235 will provide the explosive potential.
Seul l'U-235 fournira le potentiel explosif. L'uranium naturel, l'uranium que l'on extrait du sol, est moins de 1% de l'U-235. Donc, l'U-235 doit être purifié ou enrichi. C'est là que les centrifugeuses entrent en jeu, dit l'ancien négociateur du nucléaire Robert Einhorn de la Brookings Institution.
First, take uranium in the form of a gas.
D'abord, prenez l'uranium sous la forme d'un gaz. Alimentez les centrifugeuses, faites-les tourner très vite et différents isotopes d'uranium se détachent selon leur poids. Mais ils se détachent seulement un tout petit peu. Ainsi, cet uranium légèrement enrichi va dans une autre centrifugeuse pour une plus grande séparation et puis dans une autre centrifugeuse, ainsi de suite. Combien de fois dépend de ce qu'on veut en faire? De nouveau, Robert Einhorn. Si vous enrichissez à 3 ou 4% l'uranium 235, vous pouvez l'utiliser pour fournir du combustible à un réacteur nucléaire. Mais si vous l'enrichissez à 90%, vous pouvez alors l'utiliser pour fabriquer une bombe atomique.
Pour terminer, nouvelle de dernière minute, 9 soldats tchadiens ont été tués et 16 blessés hier au Nigeria lors de combats entre des islamistes nigériens de Boko Haram près de la ville de Malam Fatori. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info.